Absolument, entre revendications des profs, joie ou crainte des élèves, interrogations des parents, promesses du ministre. Pour mieux comprendre en tout cas notre enseignement à la française, je reçois ce soir une prof qui a fait le tour du monde des écoles. Juliette Perchet, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous en direct dans le studio d'Europe 1. Vous publiez aux éditions Kero, l'éducation n'est pas une science exacte. Je précise d'abord que vous avez 30 ans,
oui.
Que vous êtes enceinte, donc vous ne participerez pas à l'événement de demain, pas cette année. Que vous enseignez depuis combien de temps aujourd'hui?
Ça fait 5 ans.
5 ans, votre matière c'est le français, vous êtes prof dans un collège de banlieue, mais vous avez eu envie de sillonner 18 pays différents pour finalement apprécier les pédagogies alternatives et avoir une année de formation quelque part. En
oui,
plus.
Exactement. Mmh. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été, comme beaucoup de jeunes enseignants, dans un établissement très défavorisé, sans trop de formation, puisque c'était une époque où les IEFM étaient démantelés, etc. Mmh. Et je me suis rendu compte que j'étais absolument pas armée pour faire face aux problématiques que rencontraient mes élèves. Et je me suis dit, bah tiens, est-ce que j'irai pas voir ailleurs ce qui s'y passe? Et j'ai décidé de partir et je suis partie en septembre 2017.
Oui, 18 pays plus tard, vous revenez avec ce livre-là et on va égrener des exemples qui sont très parlants. Vous partez du principe d'ailleurs qu'au-delà des programmes et des circulaires, au fond, chaque prof doit faire un enseignement d'abord qui lui ressemble et qui ressemble surtout à chacun de ses élèves. C'est un travail de titan, mais c'est probablement le travail le plus intéressant.
Bah oui, c'est ça en fait. Finalement, je me suis rendu compte que les enseignants étaient ceux qui connaissaient le mieux leurs élèves. Mmh. Donc, au-delà de toutes les circulaires, tous les programmes qu'ils avaient et qu'on leur demandait de faire et de remplir en une année, bah, c'était surtout à eux de se faire confiance. Mais dans ce cas-là, il faut aussi les aider à se former.
Oui.
Et d'où l'importance aussi.
Ce que ne permet pas manifestement toujours la formation à la française. Vous dites qu'il ne faut pas que l'enseignement ne s'adresse qu'à l'intellect. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Bah, en fait, c'est tout simple, mais il y a beaucoup de pays, par exemple dans les pays scandinaves, les élèves font à la fois des cours de menuiserie depuis l'âge de 7 ans, des cours de travail du cuir, de
même
la
s'ils
couture.
Même s'ils sont en filière générale.
Ah oui, bien ouais. sûr, ça fait partie du tronc commun. Et même, et à la suite de ça, lorsqu'ils sont plus âgés, ils ont des cours de... ils apprennent à gérer leur budget, ils apprennent à faire des cours de cuisine, à faire un menu équilibré, etc.
C'est une école de la vie.
C'est exactement ça.
Oui, ce que nous n'avons pas aujourd'hui en France, mais je sens que vous déployez de l'énergie pour peut-être faire avancer l'histoire. Il y a un outil que vous avez développé, vous, alors très concrètement. J'aimerais que vous nous le racontiez. Il s'agit de la météo personnelle de l'élève. Racontez-nous le principe et l'intérêt.
Eh bien, alors, en fait, cet outil-là, c'est un outil qui est assez développé dans les petites classes, que moi, j'utilisais encore avec mes élèves de 6e et de 5e.
D'accord, donc classe de primaire, puis 6e,
voilà,
5e éventuellement.
Et en début d'heure, je leur demandais d'écrire sur leur cahier ou de le faire à main levée et d'exprimer si ils étaient plutôt en forme, plutôt tristes, plutôt en colère, etc.
Avec des petits soleils, un petit éclair,
exactement.
Une petite pluie. Oui.
Et donc, je leur demandais, eux, de l'écrire sur leur cahier, ce qui me permettait, moi, à la fin de la semaine ou au bout d'un certain temps, je regardais en fait régulièrement leur cahier et je pouvais identifier s'il y en avait certains qui, et notamment je me souviens d'un élève qui, depuis le début de l'année, ne mettait que des éclairs, c'est-à-dire qu'il était tout le temps en colère. Mmh. Et ça nous a permis d'avoir une petite discussion ensemble et le fait de se sentir reconnu et valorisé et vu. En fait, finalement, ça, je ne dis pas que ça a changé tout et qu'il a mis des soleils tout le reste de l'année.
Non, mais vous êtes connecté, vous vous êtes parlé. Ce que parfois vous confiez peut-être aux psychologues scolaires, mais qui ne sont pas en nombre suffisant, on le sait. Ce sont des outils qui vous permettent de rentrer en connexion avec les élèves.
C'est ça, et de mieux les connaître, parce que finalement, moi, je ne les vois que 4 ou 5 heures par semaine. Si finalement, il n'y a pas ce petit moment qui, là, prend vraiment pas beaucoup de temps, pour les voir sous un angle différent, bah, ça... On perd un peu quelque chose, quoi, de la relation.
Là, on parle de l'enseignement classique, j'allais dire, mais de toutes les méthodes alternatives qui peuvent aussi vous aider à avancer, notamment la fameuse méthode Montessori. Alors, vous êtes allé au Japon pour voir aussi, c'est une école italienne, hein, c'est une formation et un enseignement italien, Montessori, mais vous êtes allé au Japon pour voir comment la pédagogie Montessori s'exerçait là-bas. Elle repose, comme cette méthode en général, sur du bon sens, mais au Japon, vous avez trouvé quelle résonance particulière à cette méthode?
Bah en fait, au Japon, je me suis rendu compte que cette méthode, et c'est pas qu'elle était employée de manière différente au Japon, c'était que je me suis vraiment rendu compte de la façon dont elle était employée de manière générale, que cette méthode Montessori...
permet, pardon, de rebondir sur les facultés, les capacités de l'enfant et de les pousser un petit peu à l'extrême, hein, de profiter de ses qualités pour l'épanouir.
C'est ça. Et je me suis rendu compte que finalement, moi, j'avais mal compris probablement ce discours sur la méthode Montessori et que je lui attribuais des qualités qu'elle n'avait pas. Et inversement, j'avais l'impression que c'était, par exemple, presque de la liberté complète dans les classes et que c'était presque un peu le désordre, etc. Ce qui, me dérangeait absolument pas. Mais là, j'ai réalisé au Japon, en voyant les élèves travailler, qu'il y avait des règles très claires.
Par exemple ?
Par exemple, quand on va chercher un atelier, on va en chercher un, on va faire ce que l'atelier demande de faire avec, c'est-à-dire qu'on va pas jouer avec les cubes autrement que ce que demande Maria Montessori dans ses ouvrages, avec la tour rose, par exemple, où il faut les empiler du plus grand au plus petit. On ne fait pas n'importe quoi, en fait. Il y a des choses très, très claires. Et d'ailleurs, Maria Montessori elle-même est très claire sur le fait que, en fait, toutes ces règles-là, elles permettent l'émancipation de l'enfant et l'émancipation ensuite dans la société.
Bon, les petits cubes roses en quatrième, ça marche plus. En quatrième, on se heurte à un problème qui est celui de l'autorité. Et là, vous avez sillonné donc 18 pays et un peu partout, la notion évidemment se pose, elle existe. Mais par exemple, l'idée de la colle, de la punition, quand vous en parlez dans les pays scandinaves, on vous regarde avec des grands yeux. Ça n'existe pas là-bas.
Non, pas du tout. Et c'est vraiment... Je pense que c'est une question que beaucoup de parents se posent. L'autorité, l'école, etc. Et effectivement, je me souviens d'un moment assez gênant pour moi où je suis au Danemark et les élèves ont reçu quelques semaines plus tôt des étudiants américains qui leur ont expliqué le principe de l'heure de retenue, l'heure de colle. Mmh. Et là, ils se tournent vers moi en me disant « Mais vous en avez déjà mis des heures de retenue ?» Et là, moi, j'étais vraiment horriblement gênée parce que je me disais... Ils ne comprennent. Je voyais bien qu'ils comprenaient absolument pas le principe de l'heure de colle. Et je disais oui, alors oui, c'est vrai, ça m'est déjà arrivé.
Mais pardon, mais il y a pas d'élèves récalcitrants là-bas. Ils sont jamais punis sur le principe.
Si, et c'est vrai qu'ils sont rarement punis réellement. En fait, et d'ailleurs, c'est une discussion que j'ai eue avec un franco-suédois en Suède, qui lui s'était heurté un petit peu à cette double culture parce que lui, il comprenait à la fois le principe français. Et il comprenait en même temps très très bien le principe suédois qui était « il faut vraiment discuter avec l'élève ». Et ils avaient eu un élève très dur et qui était insultant envers les enseignants, vraiment menaçant avec ses autres camarades. Et les enseignants faisaient front et discutaient et ne lâchaient vraiment pas sur la discussion avec les élèves. Et avec cet élève en particulier, ils avaient vraiment déployé des tonnes du temps, énormément de temps, pour essayer de lui faire comprendre que l'autre était aussi une personne qu'il fallait respecter, etc.
En tentant de réfléchir d'égal à égal. Ça, c'est très scandinave.
Exactement.
Aussi dans la codification. Vous n'aborderez pas donc la rentrée demain parce que vous attendez ce petit bout de chou. En revanche, vous êtes plutôt positif pour terminer sur l'enseignement de demain à la française, en dépit de tout ce qu'on entend.
Oui. C'est vrai qu'en dépit de tout ce qu'on peut entendre, moi je suis très positive parce que je me rends compte qu'il y a énormément d'enseignants qui sont très volontaires, très déterminés, qui font des choses vraiment géniales au quotidien avec les élèves. Et c'est surtout ça qui va faire changer le système, je pense.